et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi, nous sommes à Radio TAF à Tel Aviv. Nous vous proposons une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme, à travers l'histoire, à travers les grands événements qui ont marqué Israël, les personnages qui l'ont façonné, les idées et les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et sur le sionisme. Bonjour Michael.
Bonjour Stéphanie.
Michael, notre émission d'aujourd'hui est consacrée à l'antisionisme.
Ah, c'est une émission spéciale pour toi.
Merci. Alors, qu'est-ce que l'antisionisme ? Est-ce que l'antisionisme a différents visages et d'où vient-il ?
Ah bah, d'où vient-il ? Il vient d'abord d'un vieux fond de haine d'Israël, qui est à mon avis très facile aujourd'hui à identifier dans différents discours. Même si parfois c'est habillé avec, je dirais, un discours pseudo-intellectuel et à la fois des éléments, je dirais, d'un narratif pro-palestinien qui s'est imposé dans les médias, dans la pensée, dans certains cercles intellectuels bien pensants, comme on dit. Bon, l'antisionisme a une histoire, une longue histoire. Encore une fois, il ne faut pas confondre... disons l'antisionisme de certains juifs qui pensent que le sionisme n'est pas, disons, l'idéologie qui leur convient dans leur mode de vie et qui préfèrent peut-être un judaïsme plus universaliste, mais qui d'un autre côté ne sont pas opposés à l'existence d'un État d'Israël, d'un État juif démocratique au Proche-Orient. Qui n'appellent pas à la destruction d'Israël, qui tout simplement considèrent que, pour eux, à titre personnel, ce n'est pas, je dirais, une solution à leur question identitaire ou à leur manière de vivre leur judaïsme. Alors, et cette approche, elle a existé, elle a toujours existé. Il y a évidemment une grande partie des juifs dans le monde qui ne se considèrent pas comme sionistes, tout en reconnaissant, malgré tout, le droit à l'existence de l'État d'Israël. Donc il ne faut pas confondre cet antisionisme-là ou cet asionisme-là avec l'idéologie qui se répand aujourd'hui et la haine d'Israël. Ce sont deux choses différentes. À l'origine, le sionisme a été un mouvement, on en a beaucoup parlé dans quelques émissions ici, c'est un mouvement révolutionnaire qui venait finalement changer le destin du peuple juif, d'une certaine manière aussi ramener le peuple juif dans l'histoire. Et donc il y a toute une partie du judaïsme, à la fois traditionnel, aussi orthodoxe, qui a considéré que ce retour dans l'histoire par l'action des hommes, c'est-à-dire par le fait que des hommes décident par eux-mêmes de quitter l'endroit où ils vivent pour aller... habiter sur la terre de leurs ancêtres et recréer un État moderne à l'image d'autres nations dans une période où justement se créaient des nations à partir d'un concept qu'on appelait l'autodétermination, c'est-à-dire l'idée que sur un territoire, il y a un peuple, il y a une langue, une culture et que en fait c'est ça la base de ce qu'on pourrait appeler la nation ou le nationalisme. Au sens le plus, je dirais, le plus pur du chose, et non pas de dérivation possible de ce qu'on a appelé le nationalisme, mais l'idée que un peuple qui vit sur une terre, et qui est majoritaire, parce que sur toutes les terres il y a toujours des minorités, ce peuple majoritaire à la fois par la culture et par sa présence, et également par sa langue, doit avoir le droit à un État pour justement... défendre et aussi développer cette culture et cette vision de cette identité de peuple. Que les Juifs soient, à un moment de l'histoire, obligés d'une certaine façon d'avoir recours à cette solution de la question juive, c'était une question qui s'est posée au moment de la montée de l'antisémitisme moderne, à savoir à la fois un antisémitisme qui venait de la droite comme de la gauche, et qui niait finalement le droit des Juifs à cette autodétermination. Et finalement, le sionisme a été aussi une volonté de se révolter contre une position qui était une position que eux estimaient comme passive, et qui donc amenait les le peuple juif, les communautés juives, notamment dans l'Europe orientale, mais on l'a vu ensuite en Europe occidentale, à se mettre en danger, à ne pas être en mesure de se défendre parce qu'ils n'avaient pas la capacité de le faire en ayant une armée, un État, un pouvoir, autrement dit, une forme de puissance. Le fait de refaire de la politique, avec tous les côtés et les aspects, je dirais, pas toujours positifs de la politique, était quelque chose qui pouvait susciter chez certains intellectuels juifs. Au moment où le sionisme naît, il est évident que le sionisme est un mouvement minoritaire et que, à la fois, les intellectuels juifs universalistes, je pense à des gens comme Hermann Cohen, Rosenzweig ou d'autres, considèrent que le judaïsme est une religion ou une spiritualité, disons, avec une vocation universaliste et non pas, et le réduire à quelque chose qui serait, je dirais, une forme de nationalisme, c'était très réducteur donc, pour le judaïsme, et ça risquait justement de trahir cette mission de rédemption sur le plan spirituel et intellectuel que pouvait avoir le judaïsme, et justement pouvait gêner aussi l'assimilation et l'intégration, disons, de certains juifs dans les cultures européennes. Et on voit qu'à cette époque, au moment où naît le sionisme, les juifs sont souvent très bien intégrés. Ils sont parmi les intellectuels ou les artistes les plus en vue. Ils sont même déjà en politique. On les voit à toutes sortes de postes, aussi bien en Allemagne, en France ou d'autres, dans d'autres pays, en Grande-Bretagne, peut-être un peu moins en Europe orientale, de l'Est. Mais les Juifs sont dans la vie active, dans l'économie, dans les lettres, dans les arts, dans la politique. Et donc, le sionisme était finalement, même du point de vue des Israélites français, une gêne dans ce processus d'intégration. Donc, c'est la raison pour laquelle, au moment où le sionisme naît, le sionisme est un mouvement minoritaire. Du côté orthodoxe, évidemment, la conception est peut-être un peu différente, mais on considère que ce n'est pas le rôle des hommes de modifier l'histoire. Le judaïsme orthodoxe vit dans l'idée du messianisme. D'ailleurs, Rosenzweig aussi, d'une certaine façon, c'était un messianisme sur le plan universaliste. Et donc, le rôle des juifs, c'est de respecter uniquement les préceptes de la Torah, de vivre de façon plus ou moins fermée, et donc d'attendre la venue du Messie, mais sans que ce soit le résultat de l'action des hommes. C'est uniquement Dieu, par son action, qui pourrait amener l'arrivée du Messie et la rédemption des Juifs, et donc de l'humanité par la suite. Donc c'est ce milieu orthodoxe considérait le sionisme comme, je dirais, un défi à la religion et à la tradition. Et donc c'est la raison pour laquelle le judaïsme orthodoxe a été pendant très longtemps antisioniste, au sens où, dans certaines communautés, lorsque les jeunes adhéraient au mouvement sioniste, ils étaient souvent rejetés de ces communautés parce qu'ils adhéraient à des mouvements haloutsiques, à des mouvements sionistes, ou qu'ils désiraient partir s'installer dans la Palestine de l'époque. Bon, le mouvement sioniste a d'ailleurs été à l'origine de la création d'un mouvement orthodoxe qui s'appelle l'Agudat Israël, qui est né après le mouvement sioniste et, d'une certaine façon, en réaction au mouvement sioniste pour justement essayer de, je dirais, d'amenuiser ou de combattre les idées du sioniste, mais aussi d'amenuiser les effets que le sionisme pouvait avoir sur la jeunesse juive, et parce qu'il considérait que, finalement, le sionisme était une forme, non pas d'assimilation en Europe dans la culture européenne ou dans la culture occidentale, mais c'était une forme d'assimilation dans un pays qui serait défini comme un pays juif, mais qui n'en aurait pas le caractère et donc qui ne respecterait pas les préceptes de la Halakha. Donc l'idée de la Agudat Israël était d'être contre le sionisme parce que ça mettait en danger sa propre vision du sionisme. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'antisionisme juif. D'accord. Qui peut, encore une fois, être expliqué. Je ne dirais pas qu'on peut appeler ça de l'antisionisme, mais c'était une opposition à la réalisation du sionisme. En parallèle, bien évidemment, le sionisme est venu ébranler un certain nombre de convictions qui existaient dans l'Europe occidentale, notamment sur ce qu'était un juif. On se souvient qu'à partir de la Révolution française, et ensuite dans tout au long du XIXe siècle, les Juifs ont été, dans la plupart des grands pays notamment en Occident, ont été émancipés, c'est-à-dire ont obtenu des droits, mais ils ont obtenu ces droits à titre individuel, et non pas en tant que groupe. Justement, ce que disait Napoléon lors du Grand Sanhédrin, c'est-à-dire de dire aux Juifs, au fond, nous vous accordons des droits en tant qu'individus, mais nous ne vous accordons pas de droits en tant que groupe, en tant que nation,
quelle
en tant que peuple.
Bah,
la différence, c'est que finalement, c'était empêcher les Juifs de se considérer eux-mêmes comme un peuple.
Un peuple
et
dans
de,
un peuple.
Voilà, et de considérer qu'ils pouvaient constituer, disons, un peuple différent dans une nation. Donc, quelque part, ne pas être une nation dans la nation, ou un État dans l'État,
d'accord,
comme on dit aujourd'hui.
Ce qu'on peut comprendre.
Voilà, ce qu'on peut comprendre. On peut comprendre, encore une fois, cette volonté d'émancipation individuelle. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que pourquoi le résultat de cette émancipation individuelle qui aurait dû permettre l'intégration et l'assimilation des Juifs dans les communautés a en fait engendré une flambée de l'antisémitisme et d'une nouvelle forme d'antisémitisme, puisqu'on venait finalement à reprocher aux Juifs de trop bien s'intégrer et de devenir finalement les détenteurs du pouvoir. Donc on disait, on leur a permis d'intégrer la société, on leur a permis d'être des citoyens égaux, mais ils ont utilisé ces droits de citoyens égaux
pour prendre le pouvoir,
soit par l'argent, soit par l'économie. Et là naît une nouvelle forme d'antisémitisme où on reproche non pas aux Juifs de ressembler à des Juifs, mais justement on leur reproche de ne plus ressembler à des Juifs.
D'accord.
Et on leur dit, mais les Juifs sont un peuple rusé qui, en fait, tout en voulant s'intégrer, ont continué à vouloir mettre leur emprise sur le monde par d'autres moyens qui sont l'argent, le pouvoir, la puissance, etc. Donc, de cette émancipation, a priori positive, puisqu'elle accordait à titre individuel des Juifs et une forme d'égalité aux Juifs, est né un nouvel antisémitisme qui va se révéler beaucoup plus violent et donc se crée en Europe des partis antisémites. En Allemagne, il y a eu un parti antisémite. En France, il y avait une ligue antisémite. Il y avait des organisations qui, délibérément, se déclaraient antisémites. Et donc, le sionisme a dit, finalement, eh bien, puisqu'on ne peut plus s'intégrer en tant qu'individu, et qu'on ne peut pas s'intégrer, puisqu'on ne nous reconnaît pas le droit à être un peuple, eh bien, nous allons essayer de créer un État à nous, où là, les autres peuples nous donneront au moins la reconnaissance d'être un peuple, et on ne les dérangera plus chez eux. De cette conception-là, qui est évidemment peut-être une solution de la question juive comme l'aurait pu penser Herzl, par exemple, on en a parlé plusieurs fois, Herzl disait, bon, ben voilà, l'antisémitisme est un fait objectif, et donc si nous quittons les communautés ou les pays dans lesquels nos communautés quittent les pays dans lesquels ils vont, et ben on va résoudre leurs problèmes, il n'y aura plus besoin d'antisémitisme, ce qui est curieusement, historiquement, s'est avéré faux, parce que même dans des pays où il y avait très peu de juifs, il y a toujours eu de l'antisémitisme, même lorsqu'il n'y avait plus de juifs, on trouve encore des antisémites. Et donc l'antisionisme est né finalement de certains thèmes classiques de l'antisémitisme. En gros, mais de façon très schématique, il y a des thèmes centraux de l'antisémitisme qui apparaissent déjà dans l'antisémitisme chrétien et qui ensuite vont se retrouver dans l'antisionisme moderne.
D'accord.
Et ce qui est intéressant de constater dans ce déchaînement de haine d'Israël dont tu parles beaucoup et qui t'inquiète, et qui t'angoisse d'une certaine façon, ce qu'on peut comprendre. On se demande souvent pourquoi, alors qu'il y a autant de problèmes dans le monde, et autant de guerres et de massacres dans différents pays, pourquoi Israël est cette espèce de bouc émissaire, et pourquoi finalement Israël est tenu responsable, quelque part, des malheurs du monde, et est considéré comme la cause de nombreux conflits dont il n'est même pas mêlé, auxquels il n'est même pas mêlé. Alors ça vient d'une idée fondamentale qui est dans l'antisémitisme, à savoir, il y a plusieurs idées. La première, c'est l'idée du complot. C'est-à-dire qu'on pense souvent, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement curieux, c'est que souvent lorsqu'il se passe un événement tragique ou autre, on pense que ce qu'on en voit, ce que les médias nous racontent, ce qui apparaît n'est pas forcément la cause véritable.
Mais d'où vient cette fameuse théorie du complot qui est à ce point...
C'est que les gens cherchent des explications, ils ne se contentent pas d'explications qu'ils auraient données. On pense toujours qu'il y a quelque chose de secret.
Mais je veux dire, par rapport au judaïsme, d'où vient cette fameuse théorie du complot qui est à ce point-là?
Eh bien, elle commence avec Jésus, avec l'accusation de déicide, puisqu'on pense... dans toute une tradition chrétienne. Aujourd'hui, le christianisme, bien entendu, a changé de sa vision des choses. Pendant très longtemps, on a considéré que même si c'était les Romains qui avaient crucifié Jésus, que c'était le résultat d'un complot, d'une conspiration, de fameux Judas Iscariote, et qu'au fond, les gens avaient trahi une espèce d'organisation secrète, une espèce de complot de rabbins, de juifs qui se sont opposés à Jésus, mais ils l'ont fait justement de manière clandestine. Mmh. Et donc c'est resté, il y a encore des tas de livres, Stéphanie, chaque jour, qui paraissent, des livres policiers, des thrillers, où il y a toujours, je te rappelle par exemple Da Vinci Code, qui a fait un best-seller, et chaque jour il y a des qui racontent finalement toutes sortes de mythes sur une espèce de société secrète, une conspiration secrète. Et dans toutes ces conspirations secrètes, on retrouve des juifs. Alors ça a été vrai après, on a parlé de la franc-maçonnerie, on a parlé de toutes sortes de sectes de ce type. D'accord. L'idée qu'il y a derrière toute tyrannie, derrière tout grand événement historique, quelqu'un qui tire les ficelles quelque part. Un des textes fondamentaux de cette vision conspirationniste, c'est ce qu'on appelle le protocole des sages de Sion.
On en a déjà parlé,
qui est un faux, qui était quelque chose qui a été totalement inventé, qui a été utilisé pour la première fois par la police secrète russe, le Grana, pour justement fomenter des émeutes contre les juifs et des pogroms. Donc ce texte est un texte fondateur qui est republié régulièrement et on en voit des dizaines et des dizaines de versions qui circulent de manière clandestine un peu partout, y compris bien entendu dans les pays arabes où ce texte sert un peu de... Voilà. Et cette thèse-là, qu'au fond derrière les attentats du 11 septembre, derrière tel ou tel événement qui s'est produit, la guerre, et c'est même Hitler avait repris cette même thèse, à savoir l'idée que finalement les responsables, ceux qui étaient à l'origine des guerres et du malheur du monde, ce sont toujours ces juifs qui essayent, qui se sont organisés, qui veulent prendre le pouvoir, qui veulent finalement dominer le monde, et ils le font à travers cette conspiration, ce complot qu'ils ont monté. Donc ça, c'est une théorie essentielle. L'autre thème fondamental, évidemment, de l'antisémitisme, c'est l'argent. Mmh. Mais l'argent, évidemment, ça sert aussi à avoir le pouvoir, à dominer, à contrôler les biens et les personnes. Et finalement, on se rend compte que, comme tous les dirigeants politiques ont besoin d'argent, eh bien, ils vont chercher l'argent chez ceux qui en ont, et ceux qui en ont, ce sont en général les juifs. Donc tous ces thèmes-là, le thème de la puissance, du complot, de l'argent, y compris d'autres accusations qui ont été portées contre les juifs, on les retrouve finalement d'une autre façon dans l'antisionisme moderne. Alors, l'antisionisme, il a eu plusieurs sources, il y a eu plusieurs étapes de cet antisionisme. Il a été extrêmement virulent avant la création de l'État d'Israël. Il a servi notamment toutes sortes d'idéologies antisionistes, comme par exemple Hitler. Hitler s'est associé avec Raja Amin el-Husseini, qui était le responsable ou le dirigeant des Arabes de Palestine, sur la base de cette idée antisioniste.
Mais je croyais qu'à la base, Hitler était pour l'émigration des Juifs en dehors, de l'Allemagne, vers où il voulait, quel que soit le pays, même la Palestine.
La conception hitlérienne était une conception raciste à la base.
C'est-à-dire
le nazisme était une idéologie raciste qui avait pour but, qui avait pour obsession, une idée de pureté, la pureté raciale. Donc l'existence de juifs en Allemagne était une forme de souillure. Donc il fallait nettoyer l'Allemagne de cette souillure. Dans un premier temps, Hitler a estimé qu'il fallait nettoyer, donc on pouvait expulser les juifs. Comme personne n'était prêt à recevoir ces juifs, et Hitler le comprenait, puisqu'il disait personne ne veut
être souillé
et avoir ces sous-êtres, c'est ce qu'il appelait des sous-hommes. Hein. Donc, donc, il est arrivé à l'idée de l'extermination. À aucun moment, il a envisagé l'idée de pouvoir envoyer les Juifs en Palestine.
D'accord.
Puisque Rajamin avait dit, au pire, lorsque on aura gagné la guerre, les Juifs auront exactement le même sort en Palestine qu'en Europe. Mais cette association entre Hitler et l'antisionisme est une association, je dirais, à la fois idéologique, avérée. C'est-à-dire que fondée sur la même idée que le juif est quelque chose qui souille la nation ou les pays dans lesquels il se trouve. Et donc il faut nettoyer l'humanité de cette souillure.
Nous allons faire une petite pause musicale et nous revenons juste après ça. Michael, est-ce que tu peux également nous parler de l'antisionisme d'inspiration marxiste ?
Oui, alors le marxisme est une idéologie qui est née de la pensée de Karl Marx, qui était, disons, un juif converti, ou dont les parents étaient convertis, qui était converti au luthérianisme, un protestant, mais qui a été un des premiers à rédiger un livre qui s'appelait « La question juive », dans lequel, justement, il expliquait ce qu'était à ses yeux le judaïsme, avec des conceptions assez curieuses, puisque pour lui, il y a une phrase notamment qui est assez... terrible, qui se trouve dans le Capital, où il dit « Toutes tes marchandises sont de l'argent et les juifs sont des juifs intérieurement circoncis ». Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Pour lui, la base, le fondement même du judaïsme, c'est l'argent.
D'accord.
Et donc, je pense que tout l'antisémitisme qui est d'origine économique, tous les reproches qui sont faits aux Juifs sur leur avidité, sur leur goût de l'argent, vient de cette idéologie marxiste qui a ensuite été reprise par d'autres penseurs socialistes, comme par exemple Toussnel, qui a écrit un livre qui est peut-être un des premiers grands livres antisémites qui s'appelle « Les Juifs rois de l'époque », histoire de la féodalité financière. Au fond, les Juifs avaient recréé une autre forme de féodalisme par l'argent. Et il réduit au fond, voilà ce qu'il dit dans son texte sur la question juive, quel est le fond profane du judaïsme, le besoin pratique, l'utilité personnelle, quel est le culte profane du juif, l'argent. Eh bien, en s'émancipant du trafic et de l'argent, par conséquent du judaïsme réel et pratique, l'époque actuelle s'émanciperait d'elle-même. C'est-à-dire, au fond, l'émancipation de l'humanité, c'est-à-dire le marxisme, c'est au fond enlever le judaïsme qui se trouve en chacun de nous.
D'accord.
Donc c'est quand même profondément antisémite. Et donc ça a donné lieu à l'idée que finalement, lorsqu'a été créé un État marxiste, l'URSS, par Lénine, eh bien on a commencé à appliquer cet antisionisme, cet antisémitisme marxiste, et ensuite cet antisionisme. Alors l'antisémitisme marxiste a commencé déjà dès l'époque de Staline, on a commencé à nettoyer, je dirais, les juifs, mais parce qu'il y avait énormément de juifs qui étaient marxistes, qui considéraient que, justement, leur combat en tant qu'ouvriers, en tant que prolétaires, c'était un combat contre le capitalisme. Et donc, il y avait à la fois les plus grands capitalistes étaient juifs, mais aussi les plus grands dirigeants communistes, de Trotsky et d'autres, étaient juifs. Donc, il y avait une espèce de contradiction. Il y avait même des organisations socialistes, comme le Juif, comme le Bund, par exemple, qui était plus ou moins marxiste et qui voulait une forme d'autonomie au sein d'un pays communiste. Et donc, il ne voyait pas de contradiction entre ce communisme et l'existence, je dirais, d'un judaïsme ou d'une pratique, notamment du yiddish. Alors, l'existence d'un État juif, au départ, a été salué, parce que dans les guerres coloniales qui existaient au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'État soviétique a soutenu le mouvement sioniste parce qu'il s'opposait à l'Empire britannique. Donc comme les soviétiques étaient intéressés à démanteler l'Empire britannique, ils ont soutenu, y compris en livrant des armes, à l'État d'Israël. Mais petit à petit, ils ont notamment interdit aux Juifs de quitter l'Union soviétique pour se rendre en Israël, parce qu'ils considéraient que ces Juifs devaient être déjudaïsés.
D'accord.
Et donc on leur interdisait l'accès au culte, la possibilité de... Et donc, comme les pays arabes sont devenus rapidement des alliés du bloc soviétique, d'une façon générale, qui ont soutenu l'ensemble des mouvements, à la fois révolutionnaires, tiers-mondistes et autres, finalement, il y a eu, je dirais, une alliance idéologique qui s'est faite entre la vision marxiste de l'histoire, qui est une vision qui consistait à soutenir les mouvements révolutionnaires, notamment en Amérique du Sud, en Afrique, et aussi dans tous les pays où des pays qui avaient été colonisés. La cause palestinienne est devenue une cause à caractère tiers-mondiste, alors qu'au départ, elle avait été soutenue, comme on l'a vu, par des musulmans comme Khadj Amin el-Husseini, qui étaient plutôt des alliés de l'hitlérisme, du nazisme. Donc c'est une espèce de renversement qui s'est opéré dans les années 60, avec la montée de tous ces mouvements de décolonisation, et ces mouvements révolutionnaires à caractère marxiste-léniniste et autres, et qui finalement, étant des alliés du bloc soviétique, ce bloc soviétique a soutenu la cause arabe d'une façon générale.
Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, par exemple en France, l'extrême gauche est foncièrement antisioniste.
Oui, par définition, l'extrême gauche, qui ne l'a pas toujours été d'ailleurs, parce que des gens comme Sartre, par exemple, qui était peut-être une figure un peu emblématique du mouvement marxiste-léniniste dans les années 68, après mai 1968. Sartre a toujours été non seulement pro-sioniste, mais en faveur de l'État d'Israël, et même s'il considérait qu'il y avait un conflit, qu'il fallait régler ce conflit, trouver des solutions à ce conflit, à aucun moment il n'a remis en cause la légitimité du sionisme. En revanche, toute l'aile gauche qui a découlé un peu du marxisme idéologique, a inscrit finalement le mouvement palestinien dans cette idéologie tiers-mondiste de décolonisation. Ce qui est complètement absurde sur le plan historique. Mmh. Mais bon, encore une fois, nous ne sommes pas là face à quelque chose d'extrêmement construit, mais face à un narratif. Le narratif palestinien et anti-sioniste s'est développé petit à petit et s'est renforcé, je dirais, dans les 50 dernières années.
Quand tu dis narratif, c'est l'histoire de la Palestine qui n'est pas vraiment l'histoire de la Palestine. C'est une histoire créée.
C'est ce qu'on raconte de cette histoire.
D'accord,
c'est-à-dire je comprends. Ce qu'on croit qui est vrai. Lorsqu'on analyse les faits, il est évident que les choses sont totalement différentes et qu'on pourrait, réfuter un à un les arguments des antisionistes. On va essayer d'y répondre à certains moments, mais j'essaie de... Là, on est sur le sens. Quelque part, je dirais que l'antisionisme a rejoint toutes ces idéologies révolutionnaires qui sont apparues notamment dans les années 60 et bien évidemment après juin 67. Mais il faut savoir aussi quelque chose d'important, c'est que juin 67, la guerre de 67 a été suivie par mai 68. Mmh. Et donc il y a une espèce de libération de la parole. Et une des sources peut-être de cette libération de la parole, c'est le fameux discours du général de Gaulle. C'est-à-dire le fameux discours qui n'a pas eu lieu au moment de la guerre des six jours de 67, mais qui a eu lieu en novembre dans une conférence de presse où il a évoqué le peuple juif en des termes qui rappelaient certains thèmes antisémites, puisqu'il disait « ce peuple sûr de lui-même est dominateur ».
D'accord.
Donc cette déclaration, je ne pense pas que de Gaulle était antisémite. Je pense que cette déclaration a libéré la parole jusqu'à 1968, enfin 67, 68 disons. La parole n'était pas libérée, parce que, encore une fois, il y avait une culpabilité liée à la Shoah, il y avait encore une difficulté, il y avait une espèce d'admiration aussi, une difficulté à critiquer finalement ce petit peuple qui était revenu sur sa terre, qui vivait de façon un petit peu difficile, avec des guerres, et des pays arabes tout autour qui avaient à plusieurs reprises essayé de le détruire, donc il y avait une espèce de sympathie naturelle à l'égard d'Israël. Le fait qu'Israël gagne une guerre en 1967 et s'impose et redevient une puissance militaire, donc redevient un peuple qui se défend, redevient un peuple qui a non seulement une souveraineté, mais qui a la capacité de vaincre également sur le terrain militaire, alors que les grandes puissances lui avaient dit aux Juifs « restez tranquilles et ne bougez pas ». Donc quelque part, Israël est rebelle, Israël ne désobéit à ce que pense le général de Gaulle, et donc le général de Gaulle, qui n'aimait pas qu'on lui désobéisse, dit « ce petit peuple commence à nous énerver ». Et, d'une certaine façon, il libère la parole. Il libère la parole contre Israël. C'est-à-dire que maintenant, on peut revenir, et quand on dit le peuple sûr de lui-même est dominateur, on revient sur ce thème de l'antisémitisme classique qui consiste à dire Israël veut dominer le monde, Israël gêne, Israël dérange. À partir de là, se développe bien évidemment, il y a toute une montée des idéologies révolutionnaires, avec l'aide, évidemment, de toutes ces causes, à l'époque, causes révolutionnaires, mais également les guérillas qui se déroulent un petit peu partout dans le monde. On a Che Guevara, on connaît toutes ces Franz Fanon, toutes ces figures un peu emblématiques à la fois de la décolonisation et de certains régimes révolutionnaires qui s'implantent à certains endroits dans le monde, Amérique du Sud, Afrique, et également au Proche-Orient. Ce message, révolutionnaire, va se lier à la parole anti-israélienne, et la création de l'OLP, 1964, si je ne me trompe pas, à partir de 1964, il y a une organisation qui va s'appeler l'Organisation de libération de la Palestine. Ce qui est intéressant, c'est, aujourd'hui on parle le peuple palestinien, mais jusqu'en 1964, il n'y a pratiquement aucun texte où on parle de Palestiniens en évoquant la population arabe de Palestine. Lorsqu'on dit, par exemple, dans les années 40 ou 50, lorsqu'on parle des Palestiniens, on parle des Juifs, donc des Israéliens, des futurs Israéliens et des Israéliens. Lorsqu'on dit la Palestine, évidemment, on parle plus d'Israël que du peuple palestinien. À partir de la création de l'Organisation de Libération Palestinienne, l'OLP, qui est créée en Égypte, eh bien, va apparaître un nouveau peuple qui va se désigner lui-même comme le peuple palestinien. Pourquoi ont-ils utilisé le mot palestinien ? C'est assez compliqué, parce qu'ils ne sont pas évidemment les descendants des Philistins. Mais c'était lié à la terre de Palestine, et donc il n'y a pas d'autre définition du peuple palestinien. Il n'y a pas de culture palestinienne qui soit différente, je dirais, sur le plan historique, de la culture syrienne ou de la culture des Jordaniens. Donc il n'y a pas de spécificité culturelle, historique, de centaines d'années, d'un peuple palestinien défini en tant que tel. Et donc le peuple palestinien n'a jamais réclamé, par exemple, il avait rejeté la possibilité qu'il y ait un État arabe en 1947, et il avait parfaitement accepté l'occupation de Gaza par les Égyptiens et de la Judée-Samarie par la Jordanie. Donc il n'y avait pas de différence à cette époque-là pour définir un peuple palestinien. Mais lorsqu'apparaît ce message tiers-mondiste, révolutionnaire de décolonisation, je dirais que les Palestiniens comprennent, avec l'aide d'idéologues justement soviétiques et marxistes, ils comprennent qu'on peut relayer les deux idéologies et donc faire quelque chose qui va apparaître dès 1968, c'est l'internationalisation du conflit, c'est-à-dire exporter finalement le conflit. Ce que va faire l'OLP et qui va être le premier acte, je dirais peut-être, c'est les actes de terrorisme hors d'Israël. Jusqu'à présent, il y avait eu évidemment des actes de terrorisme et d'attentats qui se déroulaient aux frontières avec des incursions de ce qu'on appelait des fedayines à l'époque, mais tout restait sur le terrain, au Proche-Orient, donc restait aux abords des frontières d'Israël. À partir de 1968, les Palestiniens, je veux dire, vont s'inviter dans le monde, ils vont internationaliser leur cause, ils vont se comparer à la cause d'autres peuples révolutionnaires, que ce soit à Cuba, que ce soit en Amérique du Sud, ou notamment les peuples africains, et d'autres peuples qui veulent se libérer d'un occupant. Et donc, ils vont inventer ce narratif palestinien qui est, moi, ce que j'appellerais le mythe des Palestiniens, qui se fonde sur plusieurs idées. Première idée, c'est que les Palestiniens ont été expulsés, donc ils sont des réfugiés. Et encore une fois, ce qu'il y a dans le narratif palestinien, ce sont, comme dans tous les narratifs, ce sont des questions de sémantique. C'est-à-dire qu'on va utiliser un certain nombre de mots, de termes, qui sont des termes forts, qui parlent, je dirais, dans la conscience et dans la pensée européenne, qui ont des termes qui ont une très forte signification, une très forte des connotations.
Réfugiés, voilà, occupation.
Réfugiés, occupation, colonie, rejet de la paix. Donc tout ça, ce sont des termes qui sont extrêmement forts et qui, dans, je dirais, l'inconscient collectif de l'Europe, qui est une Europe qui a été une Europe qui a colonisé, qui a été une Europe où il y a eu des empires, une Europe qui a justement vécu des exodes avec des millions de réfugiés qui ont traversé des frontières. La Première et la Seconde Guerre mondiale ont donné lieu à des exodes massifs de millions de gens qui se retrouvent dans d'autres pays que le leur. Et donc, on a vu ce qui s'est passé dans les Balkans, le nombre de Croates qui se trouvent en Serbie, de Serbes qui se trouvent en Bosnie, etc. Donc, on a vu que tous ces peuples, finalement, les exodes et le terme de réfugié est un terme extrêmement fort, d'autant qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y avait des millions de réfugiés, et notamment des réfugiés juifs. Donc, ils vont se caler, je dirais, sur ce narratif juif qui consiste à dire, voilà, vous avez été des réfugiés, nous sommes aussi des réfugiés. Encore une fois, le terme de colon, par exemple, qui est un terme qui est utilisé en Algérie, en France, le terme de colon, c'est un terme très fort, évidemment, les colons, les pieds noirs, mais il y a une métropole, il y a des colons. Là, il n'y a pas de métropole. On parle de, lorsqu'on parle de colons, on parle de colonisation, de quoi ? Tout est colonisation, d'une certaine façon, dans la mesure où, lorsqu'on s'installe, on s'implante quelque part, on colonise. Mais la colonisation, dans le terme du, dans une pensée qui est dans une vision post-coloniale, ça a un autre sens. On parle justement d'exploitation des hommes, d'exploitation des richesses. Pourquoi la France a colonisé l'Algérie ? Ben parce qu'il y avait du pétrole. Mais en Judée-Samarie, il n'y a pas de pétrole. Et ce sont des Juifs qui travaillent la terre. Ils ne font pas travailler des paysans arabes pour cultiver leur propre sol. Voilà. Donc tous ces termes-là sont utilisés, sont détournés de leur signification première, mais elles agissent comme, je dirais, des vecteurs plus affectifs, émotionnels.
Donc, c'est le but.
Voilà. Et lorsqu'on dit occupation, alors encore une fois, occupation, pour qu'il y ait occupation, il faut qu'il y ait souveraineté. Il faut qu'il y ait eu à un moment la reconnaissance d'une souveraineté. Donc, est-ce que la Judée-Samarie et Gaza, la souveraineté a été reconnue par un quelconque État ? Est-ce qu'il y a eu une souveraineté qui a été, je dirais, bafoué, ou donc encore une fois, il y a un conflit. Il est évident que l'objectivité du conflit, elle est réelle. Il y a des Arabes et des Juifs qui vivent sur cette terre, qui doivent arriver à un moment ou à un autre à un accord de paix, et donc on se trouve face à une espèce de position, de principe dès le départ, parce que lorsqu'on dit occupé, ça veut dire que quelqu'un est venu et a pris la maison de quelqu'un d'autre.
Alors, ce qui n'est pas le cas, rappelons-le.
Ce qui n'est pas le cas, mais encore une fois, chacun a le droit de penser. Chacun a le droit de penser qu'il a été victime d'une injustice. Ça, c'est, je veux dire, on ne peut rien faire contre cela. Ça, c'est objectif. Quelqu'un peut dire, les Juifs ont pris la place des Arabes. Bon, et les Arabes ont peut-être pris la place des Juifs ailleurs. Donc, est-ce qu'on parle de... En revanche, il y a des Juifs qui sont expulsés des pays arabes en raison de la création de l'État d'Israël. Il y a des Juifs qui sont et qui ont été expulsés de leur maison parce qu'il y a eu la Shoah. Il y a des Juifs qui ont été et qui sont réfugiés et qui n'ont pas où aller. Bon, encore une fois, des injustices, on peut en trouver partout. L'idée qu'il y a un territoire occupé signifie qu'il y a une souveraineté qui a été volée ou bafouée par quelqu'un. Or, il n'y a pas de souveraineté reconnue sur ni la Judée-Samarie, ni même l'État d'Israël, puisque, on l'a vu dans une précédente émission, Israël existe sur des lignes de cessez-le-feu. Et dans la mesure où les Palestiniens n'ont jamais reconnu le droit ou la souveraineté qui était entre les mains des Nations Unies, donc il s'agit d'une terre de conflit sur laquelle il doit un jour y avoir une négociation et un accord sur la répartition de la souveraineté. Point barre. Mmh. Au-delà de ça, tout ce qu'on peut raconter, c'est du narratif, ça n'est pas des faits.
Nous allons faire de nouveau une petite pause musicale et nous revenons juste après cela.
חשבתי להשאיר לך שירים מזל טוב ישראל כולם רוקדים מזל טוב ישראל על השמחה שלא ברור לגמרי בשביל מה מזל טוב ישראל על העוצמה לך תבנה פה ארץ חדשה אתה עומד אל מול המכונה תצעק חזק שהמדינה תשמע לא חשבתי לשיר לך שירים שאומרים שכולנו כאן רק אנשים כל כך מנסים להבין איך עושים את זה יחד לאורך שנים לא חשבתי לשיר לך שירים שאומרים שכולנו מזל טוב ישראל, יריות על מנהיגים כמו מדינה גדולה נמרח אדם מזל טוב ישראל שיתאם כל העולם
מיכאל, qu'est-ce que tu appelles le post-sionisme?
Alors, bien entendu, l'État d'Israël est un État qui existe depuis presque 70 ans, donc il y a toute une réflexion. En Israël, il y a des historiens, il y a des gens qui se penchent sur l'histoire et qui essayent d'analyser les faits et d'essayer de comprendre de ce qui s'est passé dans notre passé récent, mais aussi plus ancien. Et donc, il y a une école en Israël de gens qui, probablement, se sentent coupables par rapport à ce qui s'est passé, et donc qui considèrent qu'il faut réviser l'histoire. Ça, c'est très courant chez les historiens de vouloir réviser, de trouver de nouvelles explications à une situation, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors évidemment, on peut toujours considérer que tout fait a une cause, évidemment. Et la cause, on peut la trouver dans l'histoire ancienne, dans l'histoire plus récente, etc. L'analyse de la guerre d'indépendance, par exemple, il est bien évident qu'au lendemain de la création de l'État d'Israël, il y a eu un narratif israélien qui a consisté à expliquer que nous étions un peuple qui a été, enfin une nation, un État qui a été attaqué par tous les pays arabes, et que donc nous avons payé un prix extrêmement lourd, et que nous avons malgré toutes ces difficultés et tous ces ennemis, nous avons gagné la guerre. Mm-hmm. Bon, les historiens, petit à petit, ont commencé à étudier cette question et ont vu que, en face de nous, les armées arabes n'étaient pas aussi puissantes qu'on avait l'impression qu'elles étaient, et finalement, on est arrivé petit à petit à réviser l'histoire. Certains historiens arrivaient à la conclusion qu'au fond, il n'y a pas eu de guerre, mais que finalement, nous avions de la supériorité dès le départ. Mmh. Et qu'à aucun moment, l'État d'Israël n'a été déjà en danger de mort. Et que ça n'était pas en fait une guerre de survie, mais que c'était une guerre afin de conquérir un certain nombre de gains territoriaux, et autres.
Mais on a parlé de ça, et il me semble qu'il y a eu plusieurs milliers de morts du côté israélien.
Bien sûr, il y a eu plus de 6000 morts. C'est une guerre qui a coûté très cher, mais ce qu'expliquent ces historiens, je dirais, révisionnistes et post-sionistes, c'est de dire, finalement, notre armée n'était pas très bonne non plus, pas très bien entraînée. Et donc, on a sacrifié des gens, pratiquement, parce qu'on les a envoyés, comme on dit vulgairement, au casse-pipe. On les a envoyés se faire comme de la chair à canon, parce qu'on n'avait pas suffisamment d'armes et de munitions, mais nous n'avions pas en face de nous un véritable adversaire. Et donc, le but de cette guerre, c'était à la fois de gagner, de conquérir de nouveaux territoires et d'en expulser la population.
D'accord.
Et donc, ils sont allés chercher les cas où il y a pu y avoir expulsion. Alors, effectivement, quand on cherche, on finit par trouver, parce que si on sait ce qu'on cherche, et ils ont trouvé un certain nombre de petits détails de cette guerre où, à certains endroits, il y a eu des Arabes qui ont dû quitter parce qu'ils se sont trouvés en danger.
Et de ces exceptions, les antisionistes
une règle, à savoir que, effectivement, nous sommes les responsables de l'exode des Palestiniens. D'accord. Donc, les post-sionistes, au fond, ont fait deux choses. La première chose, ils ont accusé Israël des trois péchés originels.
Mm-hmm. Quels sont-ils ?
Le premier, c'est l'exode. Donc nous sommes responsables des réfugiés palestiniens, c'est nous qui les avons expulsés, nous avons fait ce qu'on appelle un transfert, et ça c'est très très mal de faire des choses comme ça, ce sont que les très très mauvais tyrans et les tyrannies qui font des choses pareilles. Bon, On a oublié que ça, ce sont des choses qui sont arrivées dans toutes les guerres, c'est-à-dire que des populations ont voyagé, je dirais, ont dû quitter parce qu'elles ne se sentaient pas en sécurité ou parce que souvent leurs dirigeants, et ça a été le cas des Arabes de Palestine, une grande partie de leurs dirigeants, notamment à Haïfa, où on n'a jamais attaqué les Arabes, des dirigeants ont demandé aux Arabes de quitter la ville, alors que le maire de Haïfa, juif, qui leur a dit « Restez, nous ne ferons aucun mal aux Arabes qui vont rester. »
En gros, leurs dirigeants leur ont dit « Quitter,
mais eux-mêmes sont aussi partis.
D'accord.
Eux-mêmes sont partis. Donc,
quitter pour mieux revenir quand on aura liquidé Israël.
En espérant revenir et détruire Israël. Bon. Le deuxième péché originel, c'est effectivement d'avoir fait cette guerre, qui n'était pas une guerre de survie, mais qui était une guerre impérial comme toute autre guerre, une guerre de conquête. Et le troisième péché, c'est que dans tout ce qui s'est passé depuis 1947-48 jusqu'aujourd'hui, c'est à chaque fois Israël qui a rejeté les propositions de paix. Et donc c'est Israël qui est le reste, qui est le véritable obstacle à la paix, ou la politique de l'État d'Israël qui est responsable à la paix.
Et c'est le cas ?
Évidemment que non, puisque pendant très longtemps, c'est Israël qui a fait la paix dans certains moments. Même Begin, qui était le responsable de droite, a fait la paix avec Sadat et a donc signé la paix avec un grand État arabe. Rabin ensuite a signé un accord de paix avec la Jordanie. Donc il y a eu des accords de paix, il y a eu toutes sortes d'accords intermédiaires. Donc dire cela, c'est très très général, et dire au fond, mais on va trouver des raisons pour expliquer ça. L'autre chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de démythifier Israël. C'est-à-dire Israël s'est créé sur un certain nombre de mythes. Et tous ces mythes, ils ont voulu les briser d'une certaine façon, ce qui peut se comprendre. Hein, dans beaucoup de pays, il y a des mythes fondateurs, et puis ensuite, on revient un peu à la réalité. Alors, la première chose, c'était de dire que, par exemple, l'État d'Israël est un État qui s'est créé afin de trouver, de permettre aux Juifs de vivre mieux, d'une certaine façon. Et ils disent, non, finalement, le sionisme non seulement n'a pas réalisé la révolution sociale et culturelle qu'elle avait annoncée, mais au contraire a créé un certain nombre, une société injuste, dans laquelle on a, par exemple, brimé les séfarades, on a empêché certaines cultures de se développer, il y a des inégalités. Donc tout le modèle, idéal de la société s'est brisé. La preuve, le kibbutz a disparu, la preuve, toutes les valeurs essentielles qui étaient celles des premiers idéologues sionistes. Au fond, la réalité, aujourd'hui, c'est que la société israélienne est une société fracturée, avec la précarité sociale, ce qui est, encore une fois, dans tout mythe et dans toute démythification... Dans tout mythe, il y a un peu de réalité. Dans toute démification, il y a aussi un peu de réalité. Et effectivement, on a dit, voilà, qu'est-ce que c'est que le sionisme ? Ça a été, au fond, la domination d'un leadership qui était ashkénaze, laïque et travailliste, et qui n'a pas permis à toute une frange de la population de se développer. Bon, la société israélienne, évidemment, elle a évolué, elle a changé, et elle n'est pas parfaite, mais on peut aussi... la noircir de cette façon-là, en démythifiant finalement le modèle de société israélienne. La deuxième chose, c'est la relation avec la Shoah. Alors, évidemment, la critique post-sioniste consiste à dire que finalement, le sionisme a utilisé la Shoah, a instrumentalisé, comme on dit, la Shoah pour obtenir à la fois de l'argent, mais aussi pour culpabiliser les autres nations et couvrir sa politique d'occupation, etc. Voilà, donc ça, c'est le deuxième mythe. Le troisième mythe, c'est l'idée que l'État d'Israël a créé une nouvelle culture hébraïque. Ils disent, l'État d'Israël est devenu un État occidental qui a comme unique modèle les pires États capitalistes, libéraux de la planète, et donc qu'aujourd'hui l'idéal sioniste n'existe plus. Ce que veulent les jeunes Israéliens, c'est être des Américains ou être le modèle. Et puis, le dernier mythe, c'est l'idée de l'Israël comme unique démocratie. Alors évidemment, il nous explique que certes, Israël est une démocratie, et se présente comme la seule démocratie de la région, mais en fait, depuis sa fondation, cet État ne cesse d'adopter des lois antidémocratiques qui discrimine les minorités, qui discrimine
tel
ou tel.
Quel type de loi anti-?
Des lois qui limitent la liberté d'expression, des lois qui limitent la liberté des Arabes, par exemple, d'acheter des maisons, la liberté de tel ou tel groupe de pouvoir développer sa propre culture. Donc, ils essayent de nous prouver que finalement, la démocratie est tout le temps en danger et que c'est le pouvoir, le gouvernement, peu importe quel soit le gouvernement, d'ailleurs, que ce soit un gouvernement de droite ou de gauche, mais en danger la population, et qu'au fond, il vaudrait mieux ne pas, non pas avoir un État juif, mais un État de citoyens. Et donc, il faut déjudaïser cet État pour en faire un État démocratique où tous les citoyens sont égaux, parce qu'à partir du moment où on dit c'est un État juif, ça veut dire qu'on donnerait le privilège à la population juive sur la minorité arabe. Donc
mais
ça n'est pas un
cas.
État, et ce serait contraire à la démocratie. Ben non, ça n'est pas le cas dans le cas des droits. Et bon, il faut tout simplement rappeler à ces gens-là que le vice-président de la Knesset est arabe, et que voilà, et qu'il y a dans toutes les compagnies arabes, dans les universités, dans les sociétés financières et autres, énormément de gens qui viennent de la minorité arabe et qui ont exactement le même salaire et les mêmes droits. Et que, encore une fois, c'est un mythe qui on essaye de détruire le côté démocratique de l'État d'Israël. Justement, alors à chaque fois qu'il y a, peu importe, il y a un député qui propose une loi, alors c'est une loi antidémocratique. Dernier point, je pense, qui est important, c'est l'idée qu'on nous explique que finalement, Israël est un obstacle à la paix parce qu'Israël refuse de revenir aux frontières de 1967, et que donc demain, si Israël quittait les territoires, il redeviendrait un État en paix.
Est-ce que c'est vrai ?
On a vu ce qui s'est passé à Gaza. Dès que Israël est parti, on a eu des missiles qui sont tombés sur Israël. Et il est évident qu'aujourd'hui, si Israël quittait comme ça la Judée-Samarie, qui est un territoire où il n'y a que 4000 km occupés, c'est-à-dire c'est moins d'un département français. Encore une fois, lorsqu'on parle de cet impérialisme et du grand Israël, on parle d'un État qui est plus petit que la Belgique, avec les territoires soi-disant occupés. Donc, quelque part, l'idée de dire, si Israël s'en va, bien évidemment, il y aura la paix, c'est exactement le contraire. Je pense que tout le monde comprend que si Israël se retire du moindre territoire, il y aura aujourd'hui une attaque d'Israël, parce que le projet antisioniste, c'est le projet de destruction d'Israël en deux temps. D'abord, revenir aux frontières de 67, et ensuite, faire la deuxième partie, c'est-à-dire détruire l'État d'Israël de deux façons, à la fois par cette désintégration à l'intérieur, et donc par la montée justement d'idéologies qui sont antisionistes à l'intérieur d'Israël, et par sa destruction, soit par une espèce de vision démographique, de dire voilà, demain il y aura, ils ne seront plus majoritaires, donc le sionisme ça consiste à être majoritaire sur le plan démographique, donc il faut se retirer de tous les endroits où il y a une certaine proportion de minorités arabes, ce qui voudrait dire demain peut-être quitter une partie de la Galilée parce qu'il y a 50% d'arabes dans cette région, et que demain avec le nombre d'enfants et la natalité qu'il y a dans la population arabe, nous serons minoritaires, donc il va falloir se retirer de cet endroit. Donc ça, une conception qui est tout le contraire du sionisme. Le sionisme, justement, c'est de trouver un moyen de régler ce conflit par la négociation et par une volonté de paix. L'obstacle à la paix, c'est avant tout la volonté d'une des parties de ne pas vouloir la paix.
Merci beaucoup, Michael. Merci, chers auditeurs de Radio TAF, et je vous dis à très vite. Nous nous quittons en musique.
בלעדייך אין לי שום דבר ילדה סוכר
לא מוכן כבר מזמן הבנתי כמה זה קורה נשאר לא מכוון, נשאר לא מוגן רוצה לדעת ולא להאמין רוצה להרגיש ולא להבין כל הדרכים הוליכות אותי אליי